Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors vous le savez, il est à mes côtés tous les jours après ses consultations pour vous, auditeurs d'Europe 1, c'est de vous qui vient de prendre soin. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous, bonjour à toutes.
Alors au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons faire un point, comme nous le faisons de temps en temps, sur l'épidémie de coronavirus. Depuis vendredi, nous sommes de nouveau confinés. Un confinement plus light néanmoins qu'au printemps, avec les enfants qui ne sont pas déscolarisés cette fois. Alors, quelle est la situation aujourd'hui à l'hôpital? Comment s'annoncent les jours et les semaines à venir? Les mesures, les restrictions actuelles seront-elles suffisantes? Pour en parler, nous recevrons le professeur Frédéric Adnet. Il est le chef des urgences de l'hôpital Avicenne et du SAMU du 93, département la Seine-Saint-Denis, où la situation est particulièrement tendue. Ensuite, dans notre chronique, les bobos du quotidien. Ce sera plutôt aujourd'hui un conseil du quotidien. Le mois sans tabac vient d'être lancé. Un défi de 30 jours pour essayer d'arrêter collectivement de fumer. Benjamin Lévesque nous fera un point complet. Et puis, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, une question. Est-ce que l'amour dure vraiment 3 ans?
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux. Vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va démarrer par la question de Louise. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors Jimmy, je sais que vous n'êtes pas trop branché naturopathie. Mais qu'est-ce qu'on peut prendre concrètement de naturel pour booster son immunité? Ça doit exister.
Alors pour vous répondre, vous l'avez dit, Jimmy n'est pas un spécialiste des solutions naturelles. Lui, c'est un spécialiste du lavage des mains, par exemple, en ce moment.
C'est déjà pas mal.
Hein, c'est bien. Alors on a préparé du coup pour vous répondre, Louise, interroger Angèle Ferremag. Elle est naturopathe. On l'écoute.
Il y a des petits nutriments qui boostent vraiment notre immunité, comme la vitamine C. Alors c'est la vitamine par excellence qui joue un grand rôle dans la prévention des infections et des maladies de tout type. Ça permet de diminuer la possibilité de tomber malade, mais aussi des risques de déprime et de dépression. Donc la vitamine C, c'est vraiment important. On en trouve surtout dans les fruits et les légumes frais, notamment dans le kiwi, dans le persil, dans toutes les herbes aromatiques aussi. Le magnésium, c'est vraiment la nourriture du cerveau. Bonne nouvelle, on en trouve dans le chocolat. Donc évidemment, il ne faut pas du chocolat blanc à la coco, mais du chocolat noir. Peut-être aussi remplacer le café par une petite tisane antivirale. En ce moment, ce serait pas mal. Donc, par exemple, on peut mélanger un morceau de badiane, une fleur d'anis étoilée, avec quelques tranches de gingembre ou un peu de curcuma. On laisse reposer quelques minutes dans l'eau bouillante. Et puis, pourquoi pas, ce serait le moment de faire une petite cure de probiotiques. Ou alors naturellement, en consommant de la choucroute, du kéfir, du kombucha. Bon, la choucroute crue, hein, pas la choucroute cuite avec du porc dans tous les sens. Mais un peu de choucroute crue, ce serait vraiment le bon moment. Ou faire une petite cure de gélules de probiotiques qui permet de nourrir la flore intestinale.
Ben voilà, la choucroute crue, Jimmy, c'est ce que vous préférez. En plus, je mangeais tous les soirs, hein, je crois, avant de vous coucher.
Et je ne dis pas les gaz derrière, mais bon.
Allez, c'était Angèle Ferremag, donc, qui était au micro de Benjamin Lévesque. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, elle est pour vous, Jimmy. Écoutez bien, c'est Yvette qui nous l'a posée sur notre répondeur. On l'écoute.
Au sujet d'une rotule, je suis tombée, j'ai chuté. Ça fait 9 mois et puis on me dit qu'il n'y a rien à faire. J'ai très mal au genou. Disons, voilà, c'est mon genou qui a lâché. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux rotules? Je remarche mal, mais je remarche. Voilà, y a-t-il une opération, quelque chose à faire? Merci, docteur.
Voilà, bah vous voyez, c'est une question pour vous directement, Jimmy. Alors, on ne fait pas de radioconsultation ici. D'ailleurs, ce n'est pas légal, on n'a pas le droit. Mais on peut quand même éclairer peut-être Yvette, Jimmy, d'un point de vue général. Donc, elle dit qu'elle est tombée il y a 9 mois, qu'elle a encore mal au genou, à la rotule particulièrement, aux rotules. Je ne sais pas si c'était les deux ou une. Après une chute, comme ça, avoir mal encore 9 mois après, ce n'est pas normal en tout cas.
Non, puisque peut-être qu'elle s'est fait une fracture à ce moment-là, une petite fissure, même quelque chose qui est passé parfois inaperçu, même lorsqu'on fait des radios. Ça a mal cicatrisé et elle peut avoir ce qu'on appelle de l'algodystrophie, c'est-à-dire une forme d'enraidissement, des douleurs, alors que les radios ne montrent rien de particulier. Ça peut survenir après n'importe quel traumatisme. C'est un peu plus fréquent lorsque vous faites opérer, mais une entorse de la cheville ou un traumatisme des genoux peut donner ces douleurs. Mais rassurez-vous, elles finissent toujours par partir. Encore faut-il éliminer toutes les autres causes de douleurs de genoux qui sont très nombreuses malheureusement.
Vous disiez tout à l'heure qu'on peut donc se casser, se fissurer, même sans qu'on le voit forcément à l'imagerie, les rotules. Mais du coup, on fait quoi si c'est une fracture? On plâtre la rotule?
La fracture de la rotule est exceptionnelle puisque c'est quelque chose qui reste assez solide et qu'on observe plutôt dans les accidents de la voie publique. En revanche, vous pouvez vous casser l'os qui est juste en dessous, le plateau tibial. Vous avez le tibia et le péroné qui peut se fissurer. Vous pouvez vous faire une entorse boitée et mal cicatrisée, mais la rotule est très solide, elle casse rarement. Sauf si malheureusement
donc
vous
avez... Donc on ne plâtre pas la rotule.
Non, ça ne se plâtre pas. On immobilise le genou, donc on met un plâtre si jamais il y a une fracture.
Ouais.
On l'opère de façon exceptionnelle. L'immobilisation en général, c'est le seul traitement.
D'accord. Elles servent à quoi précisément d'ailleurs nos rotules finalement? Parce qu'on sait qu'on les a, on en a deux a priori, mais ça sert à quoi?
Écoutez Mélanie, journaliste santé, vous me demandez à
je
quoi
fais exprès,
servir.
Je fais
sais,
exprès.
Vous savez. Alors la rotule, c'est un petit os triangulaire avec
c'est
le sommet...
Pour que vous ayez l'air intelligent.
Mais oui, et je brille en société grâce à vous. Et dans les dîners, j'en dis, mais écoutez ce que c'est qu'une rotule. Et donc, c'est un petit os qu'on trouve entre le fémur et le tibia et le péroné qui sert comme une fonction de poulie. Il va permettre une flexion-extension de genou. C'est relié par des ligaments au-dessus et des ligaments en dessous. C'est ce qui donne la mobilité et la stabilité d'un genou.
Pour le cas d'Yvette, alors encore une fois, on ne peut pas lui faire une consultation précise, vous n'avez pas son dossier sous les yeux, mais est-ce que, je ne sais pas, du kiné par exemple, ça pourrait lui faire du bien?
Exactement. Tout d'abord, refaire des examens peut-être si son médecin traitant considère que c'est nécessaire.
Avoir avec son médecin, bien sûr.
Et puis ensuite, si jamais on n'a pas de cause évidente, l'activité physique, quelle qu'elle soit, au travers d'un kinésithérapeute, peut limiter l'enraidissement, limiter les douleurs. Donc pourquoi pas, ça peut l'aider, mais qu'elle aille consulter son médecin traitant favori.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Yvette, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions santé, bien-être au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. Vous êtes en ligne avec nous, professeur Frédéric Adnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef du SAMU du 93 et des urgences de l'hôpital Avicenne. On vous a eu plusieurs fois dans cette émission au printemps dernier notamment. Alors comment ça se passe aujourd'hui au moment où on se parle dans votre hôpital, aux urgences précisément?
Ben écoutez, aux urgences, ça se passe pas trop mal parce qu'on a affaire à un flux continu de patients Covid qui arrivent aux urgences. En gros, 6 à 10 patients qu'il faut hospitaliser tous les jours. Mais le problème, il est en aval des urgences, c'est-à-dire que la réanimation est pleine à ras-bord et les services d'hospitalisation sont remplis de patients Covid, ce qui fait qu'on a beaucoup de mal à hospitaliser en réanimation et dans les services conventionnels nos patients Covid.
Et du coup, professeur, vous avez un délai pour savoir à partir de quand le système va être saturé, parce que inexorablement, les malades vont continuer d'arriver, peut-être de plus en plus. Est-ce que vous avez des projections pour vous dire, bah, écoutez, dans 15 jours, nous n'aurons plus du tout de lit sur tout l'hôpital?
Ah mais le système est déjà saturé, ça fait une semaine que le système et nos services sont complètement saturés et on est obligé de faire ce qu'on s'était interdit de faire et ce qui nous pose des vrais problèmes, c'est-à-dire de déprogrammer des patients moins urgents aussi bien en chirurgie qu'en médecine pour pouvoir laisser la place aux patients Covid qui eux nécessitent des soins urgents parce qu'ils ont des détresses respiratoires, ils ont des besoins d'oxygène et on est obligé de leur donner la priorité.
Oui, ça c'est déjà le cas donc, chez vous dans le 93, là vous parlez de votre hôpital, mais je crois que votre département, la Seine-Saint-Denis, est particulièrement touché. Comment on l'explique à chaque fois? Parce qu'au printemps dernier, c'était pareil, vous nous aviez expliqué dans le 93.
Bah écoutez, les causes produisant les mêmes effets, on a été le département d'Île-de-France le plus impacté à la première vague et on est probablement aussi le département le plus impacté pour cette deuxième vague. Bah, c'est lié au fait, à la sociologie de notre population en Seine-Saint-Denis. Vous savez que c'est un département le plus pauvre de France, ce qui impose une proximité dans les habitations avec des familles nombreuses et donc des transmissions plus faciles. Et aussi, si vous voulez, des métiers dans la population de la Seine-Saint-Denis qui sont très au contact du public. C'est là où on trouve beaucoup les aides-soignantes, les chauffeurs de bus,
les chauffeurs
de métro, chauffeurs de taxi, dont on sait que tous ces métiers qui ne sont pas accessibles au télétravail sont des métiers qui favorisent, si vous voulez, la transmission du virus. Donc on est effectivement en Seine-Saint-Denis une population qui est très à risque de la transmission du virus. C'est ce qu'on a vérifié pour la première vague et ce qu'on vérifie malheureusement pour la deuxième vague.
Et justement, professeur, dans cette deuxième vague, est-ce que le profil des malades est identique que celui du mois de mars, c'est-à-dire les patients qui ont à peu près le même âge, le même profil?
Oui, c'est exactement les mêmes patients qui font les formes graves, c'est-à-dire les patients âgés et les patients qui ont des maladies chroniques. Mais on a, comme pour la première vague, aussi des patients jeunes, hein, puisqu'on a des patients de moins de 65 ans. J'ai hospitalisé en réanimation, il y a deux jours, des patients qui avaient 35 ans, sans antécédents. Donc on a aussi, si vous voulez, des patients jeunes. C'est plus rare, mais on les a. Par contre, ce qui a beaucoup changé, c'est notre prise en charge de la maladie. Mmh. On a fait beaucoup de progrès. La mortalité hospitalière s'est effondrée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Et la durée de séjour s'est aussi beaucoup rabaissée.
On reparlera
de la prise en charge. Mais le profil des patients est toujours le même.
On en reparlera un petit peu plus tard. Ce que je voulais vous demander, c'est vous pensez qu'avec les restrictions, les nouvelles restrictions, donc qu'on va détailler là aussi juste après, quoi qu'il en soit, on va l'avoir quand l'effet ? C'est pas tout de suite. On sait, il faut quoi ? 10 jours, 15 jours ? Dans combien de temps vous espérez qu'il y aura un petit mieux, quoi ?
Bah alors là aussi, on a l'expérience de la première vague avec le confinement généralisé. On a eu les effets du confinement généralisé globalement 2 semaines après le début des mesures. Donc ici, on a déjà eu le couvre-feu. Donc on peut-être qu'on va voir un petit amortissement qu'on devrait sentir maintenant. Et les véritables effets du confinement light qu'on a actuellement, on va l'avoir dans 10-15 jours.
Le chef de l'État, lors de son allocution, a expliqué qu'on avait du matériel, que cette fois-ci, on serait prêt. Des tests, des masques, des respirateurs. Mais il y a quand même deux facteurs limitants. Un, vous l'avez dit, c'est le manque de lits. Et puis deux, c'est les soignants. Ils ont pris quand même assez cher lors de la première vague. Est-ce que là, ils sont armés pour cette deuxième vague qui ressemble plutôt à un tsunami qu'une petite vaguelette ?
Oui, là, vous avez tout à fait raison. Alors, ce n'est pas un tsunami. Hein. Le tsunami, on l'a eu à la première vague. Le tsunami, si vous voulez, c'est une arrivée brutale de beaucoup de patients. Là, on a, si vous voulez, une marée montante ou une baignoire qui se remplit. C'est-à-dire, on a de plus en plus de patients dans nos services.
Et ça déborde une baignoire au bout d'un moment.
Avec une cinétique très lente. Maintenant, vous avez aussi raison, le facteur limitant, c'est le personnel. Hein. On a le matériel, on a les respirateurs, on a les tenues de protection, on a même des lits. Moi, j'ai des services ici qui sont prêts à être ouverts, sauf que je n'ai pas de personnel, ni médecin, ni infirmière, ni aide-soignante pour pouvoir faire fonctionner ces lits. Et le problème principal, voire le seul problème, c'est qu'on n'a pas assez de personnel spécialisé pour ouvrir ces lits.
Et vous disiez que ce n'est peut-être pas un tsunami, effectivement, c'est une baignoire qui va finir par déborder, mais est-ce que vous craignez pas aussi que le fait que la saison soit différente, c'est-à-dire qu'on était au printemps la dernière fois, il faisait beau, là on est quand même en hiver, les conditions météorologiques vont être moins bonnes de semaine en semaine, il va faire de plus en plus froid, est-ce que ça pourrait être même pire ?
Alors bien sûr, hein, on sait que les coronavirus sont des virus saisonniers dans les coronavirus qui sont pas graves comme les rhumes et les autres coronavirus qui donnent des pathologies saisonnières. On sait aussi que le SARS-CoV-2, donc le virus responsable du Covid-19, aime bien les températures tempérées autour de 10 degrés. Ça, c'est des études qui l'ont bien montré. Donc effectivement, on craint, si vous voulez, qu'il y ait en plus un facteur saisonnier qui se surrajoute, si vous voulez, au problème de la transmission du virus et du mauvais respect des gestes barrières et peut-être d'une efficacité moindre du confinement. Mais je vous le répète, un oiseau de mauvais augure, on va attendre 15 jours en espérant que ce flux de patients qui nous arrive continuellement diminue pour qu'on puisse l'absorber.
Merci professeur Adnet. On va faire une courte pause. On vous retrouve dans un court instant.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau, pas tout à fait puisque vous êtes en ligne avec nous, c'est vous professeur Frédéric Adnet, vous êtes chef du SAMU du 93 et des urgences de l'hôpital Avicenne. Et professeur Adnet, à présent on va commenter un peu peut-être les nouvelles restrictions. Officiellement, depuis vendredi, la France est reconfinée, mais honnêtement, il y a beaucoup de différences avec le premier confinement. Vous pensez que, vous le disiez vous-même, hein, c'est un confinement light ? Trop light ?
Oui, tout à fait. Alors, je ne sais pas s'il est trop light, il va falloir attendre ses effets dans 10-15 jours. Mais évidemment, le confinement actuel n'a rien à voir avec le confinement qu'on a vécu à la première vague. Mais c'est pas non plus une solution. Un confinement généralisé trop dur, ça altère aussi la santé publique. Parce que quand vous cassez l'économie, vous cassez la santé. Donc ça, c'est bien démontré par toutes les études. Donc il fallait trouver un équilibre entre, si vous voulez, un confinement qui soit efficace sur la transmission de la circulation du Covid et ne pas casser trop l'économie pour ne pas casser aussi la santé des Français.
Et beaucoup avancent l'argument selon lequel on aurait exactement le même risque de tomber malade ou d'être protégé en allant faire ses courses dans un supermarché que d'aller chez un petit libraire ou d'aller acheter des fleurs. Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre pour essayer de leur convaincre de l'utilité de ce confinement ?
Mais écoutez, moi je comprends l'inquiétude des petits libraires, des petits commerçants. Je comprends qu'on menace leur emploi, on risque de mettre en faillite beaucoup de commerces. Je comprends ça. Mais moi, ce que je vois tous les jours, c'est des gens mourir à l'hôpital. J'ai reçu une interne pas plus tard qu'hier qui m'a annoncé la mort de sa mère de 64 ans du Covid. Et je vous assure que quand on vit ces situations-là, on modère, si vous voulez, les avis sur la fermeture des petits commerces pour 15 jours. Alors moi je pense qu'il faut, on a décidé des mesures, il faut les respecter. On a 15 jours pour voir s'ils ont des effets ou pas. Mmh. S'il n'y a pas d'effet, ben à ce moment-là on peut ouvrir le débat, on peut regarder ce qui n'a pas été. Ouais. Et si ça a des effets et que ça ralentit suffisamment le flux des patients pour qu'on puisse les soigner, à ce moment-là, on pourra peut-être un petit peu baisser la garde et remettre une bouffée d'oxygène pour les petits commerces. Mais je crois qu'il faut pas se lancer dans des débats sans fin. On l'a vu avec des traitements, avec tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Des mesures ont été décidées, on y va pendant 15 jours et on regarde si on peut sauver des patients.
Mmh. Mais professeur Adnet, vous dites bon, on va attendre 15 jours pour voir les résultats. La première fois, on les a vus au bout de 15 jours. Cette fois, comme c'est plus light, est-ce que ça risque pas d'être plus long aussi les résultats? L'Irlande, par contre, qui a confiné à peu près dans les mêmes conditions que nous, je crois, a eu des résultats assez tôt, hein, finalement.
Oui, c'est pour ça que je suis assez optimiste. Hein. On sait que le confinement militaire total à la chinoise, ça peut arrêter le virus. On voit bien les résultats en Chine et dans les pays asiatiques. On sait que pour nous, ces mesures quasi-militaires ne prendront pas. Donc on essaye de faire des mesures un petit peu intermédiaires. Tout ce qu'il faut, c'est ralentir le flux. C'est pas arrêter le flux, on l'arrêtera jamais. Mais ralentir le flux pour que nous, on puisse s'occuper des malades à toute sécurité et pas pouvoir faire des choix éthiques. Donc on en est là. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on aura une amélioration, mais on n'aura pas un arrêt de l'épidémie, c'est évident.
Professeur, autre point de crispation, ce sont les écoles. Il faut reconnaître que les parents sont soulagés que les enfants puissent aller à l'école. Les enfants sont contents d'y retourner. Mais néanmoins, le rôle des enfants semble de moins en moins clair. En tout cas, ils semblent de plus en plus participer à l'épidémie. Est-ce que le port du masque à 6 ans, c'était une bonne mesure pour éviter les contaminations?
Écoutez, les travaux la littérature scientifique concernant l'importance des enfants dans la transmission du virus aussi bien à la maison qu'à l'école sont très contradictoires. Hein. Au début, on pensait que les enfants n'avaient qu'un rôle mineur, voire extrêmement peu important dans la transmission du virus, aussi bien à l'école que dans les foyers. Quelques études ont montré l'inverse, donc on est dans une grande incertitude scientifique quant au rôle des enfants. Alors quand je parle d'enfants, c'est inférieur à 10 ans. Hein. Oui. On sait qu'au-dessus de 10 ans, les adolescents, c'est comme les adultes. Mais pour les petits-enfants, on est dans une grande incertitude sur leur véritable rôle dans la transmission du virus. C'est des études extrêmement difficiles à monter. Donc s'il y a une bonne acceptabilité des masques pour les enfants de moins de 6 ans, pourquoi pas? Plus on met de mesures barrières, plus on met de barrages entre la transmission du virus, donc la transmission du virus par aérosol ou postillon, moins on aura de probabilité de se faire contaminer. Donc pourquoi pas? Mais il y aura peut-être un problème d'acceptabilité. Stabilité et de faisabilité. Surtout protéger ces personnes à risque.
Professeur Adnet, Emmanuel Macron, le président de la République, a dit que donc notre objectif, là, c'était d'atteindre les 5000 contaminations jour. On est à 30 000 environ, 40 000 par jour en ce moment. Vous pensez qu'en 4 semaines de confinement, on peut arriver à ces 5000 contaminations jour?
Écoutez, c'est un très mauvais indicateur, le nombre de contaminations par 100 000 habitants, parce que elle dépend en premier lieu de la politique de dépistage. Hein. On a vu que lorsqu'on a plus ciblé les dépistages vers des patients qui avaient des symptômes ou qui avaient des ordonnances, le nombre de cas a bondi. Si vous voulez qu'il y ait énormément de cas et qu'ils n'aillent pas à l'hôpital, moi ça me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est que je ne peux pas soigner à l'hôpital les cas graves. Donc je pense que les indicateurs pertinents pour évaluer l'impact de cette épidémie, c'est le nombre de patients hospitalisés, le nombre de patients en réanimation et évidemment le nombre de morts.
Professeur Adnet, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous, revient dans un instant. Nous faisons le point aujourd'hui sur l'épidémie de coronavirus, le confinement et à présent, on va parler quand même de la prise en charge qui s'est nettement améliorée depuis la première vague. Alors comment sont traités les patients les plus graves aujourd'hui? Y a-t-il des médicaments qui vont arriver peut-être encore plus efficaces? Et quid du vaccin? On y revient avec notre invité très très vite. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, en ligne avec nous, le professeur Frédéric Adnet. Je rappelle que vous êtes chef du SAMU du 93 et des urgences de l'hôpital Avicenne. Alors professeur Adnet, s'il y a un point, je crois, sur lequel tout le monde est d'accord, c'est qu'on a fait, donc vous l'avez déjà un petit peu dit tout à l'heure, de très gros progrès sur la prise en charge des patients graves. Alors en espérant qu'on ait toujours des lits pour eux et des bras pour en prendre soin, comment on les traite ces patients aujourd'hui, ces patients graves ?
Alors effectivement, on a fait beaucoup de progrès dans ce qu'on appelle le traitement symptomatique. On n'a pas trouvé la molécule qui tue le virus, mais dans le traitement symptomatique, c'est-à-dire le traitement des symptômes, on a fait d'immenses progrès. Pour vous donner un chiffre, la mortalité en réanimation était de l'ordre de 30%. Actuellement, elle est de l'ordre de 17%. Donc on a gagné pratiquement un facteur 2 de mortalité pour la réanimation. Alors c'est quoi ces progrès ? Il y a trois axes essentiellement. L'utilisation des anticoagulants, parce que vous savez, c'est une maladie qui fait des caillots dans le sang et les anticoagulants empêchent les caillots de se former et ça a pu permettre de sauver beaucoup de patients. Le deuxième axe, c'est les corticoïdes. Hein. On sait que la dexaméthasone est le seul médicament qui a réussi à faire baisser la mortalité d'environ 20% des patients. Et le troisième axe, c'est des meilleurs protocole de prise en charge sur l'oxygénation et la ventilation de ces patients. On essaye de moins en moins d'intuber les patients, de les mettre sous ventilation mécanique et on a de nouvelles méthodes non invasives de ventilation, d'oxygénation de ces patients.
Donc professeur, on a fait des progrès et tant mieux, ça baisse la mortalité, vous l'avez dit un petit peu, mais du coup est-ce qu'on a baissé aussi la durée de séjour à l'hôpital et en réanimation qui permet peut-être un meilleur turnover et d'accumuler plus de malades qu'auparavant ?
C'est exactement ça. On a largement amélioré le turnover. La durée de séjour en réanimation, elle est passée de 30 jours à actuellement 13-14 jours. Et elle est passée en hospitalisation de l'ordre de 25 jours, là aussi à 14-15 jours. Donc vous voyez, encore une fois, divisé par deux, ça améliore le turnover. Et si on arrive à équilibrer le flux sortant des patients, c'est-à-dire patients guéris, avec le flux entrant des patients, alors là, on a tout gagné, parce qu'on arrivera à un équilibre et on pourra ne pas avoir la saturation telle que là où on l'a aujourd'hui.
Alors vous nous avez décrit un petit peu le protocole, on va dire classique aujourd'hui, de traitement de ces patients graves. Est-ce qu'on peut parler de certains médicaments dont on a parlé hein, pendant la première vague, notamment il y avait ce grand essai Discovery qui devait tester plusieurs molécules. Est-ce qu'il y en a un qui a tiré son épingle du jeu ?
Ben non, aucun.
Ça a été la déception, ça.
Ça vient d'être publié et malheureusement, quatre médicaments différents ont été essayés. Hein, je vais pas les détailler, mais il y avait l'hydroxychloroquine, le remdesivir, tous et d'autres n'ont montré aucun effet sur la mortalité, malheureusement. Donc on est toujours au même point, dexaméthasone, anticoagulant et meilleur protocole de ventilation.
On avait une autre piste, celle du sang de plasma de patients convalescents. Là encore, je crois que c'est pas terrible non plus.
Non, c'est moins qu'on puisse dire, c'est pas terrible. Il y a eu quelques études au début qui étaient encourageantes, donc qui ont donné naissance à des grands essais randomisés. Et actuellement, on est plutôt sur la réserve. Donc on n'a pas encore les résultats définitifs de tous les essais, mais ça n'a pas l'air non plus de marcher terrible.
On nous avait parlé aussi d'un médicament qui s'appelle le tocilizumab, c'est un anticorps monoclonal, comme un grand espoir aussi à un moment donné. Finalement, là aussi, c'est bof, je crois.
Ben voilà, c'est même plus que bof. Il y a eu trois essais sur ce médicament qui est un anti-inflammatoire qui va piéger, si vous voulez, ce fameux orage cytokinique dont tout le monde a entendu parler, hein, qui est l'emballement de la réaction inflammatoire qu'on observe dans la deuxième phase de cette maladie Covid. Et on avait beaucoup d'espoir sur ce médicament qui allait attaquer cet orage cytokinique. Malheureusement, les trois essais montrent aucun effet sur la mortalité.
Et puis on a un dernier espoir, celui de l'équipe de Pasteur de Lille qui a un peu communiqué là-dessus sans nous dire exactement quel médicament c'était. C'est un traitement qui a été retiré du marché. Est-ce qu'on sait ce que ça vaut pour l'instant ?
Non, mais moi je me méfie maintenant.
Des effets d'annonce, hein. Un médicament dont on ne vous dit pas le nom, mais qui pourrait peut-être très très bien marcher.
En tout cas, s'il y a une leçon à tirer de cette épidémie, c'est qu'il faut se méfier des annonces péremptoires du médicament miracle. C'est une espèce de course à l'échalote pour avoir le médicament miracle. Donc attendons les études sérieuses. Pour l'instant, tous les espoirs ont été déçus. Il reste le vaccin, mais en tout cas, le médicament antiviral n'existe pas encore. Mais vous savez, ce n'est pas très étonnant, hein. La grippe existe depuis des centaines, voire des milliers d'années.
Il n'y en a toujours aucun médicament très efficace. Oui, c'est vrai. Jimmy ?
Compte tenu du nombre de contaminations, du fait qu'on a du mal, on a confiné, ça repart, peut-être qu'il y aura une troisième vague, est-ce qu'on peut espérer à terme aboutir à une immunité collective ou encore c'est un vaste mirage qui aura aussi des conséquences, c'est que des gens vont mourir ?
Ben, vous avez parfaitement raison. Hein. L'immunité collective, tout le monde espérait beaucoup, et moi le premier. Plusieurs études montrent qu'il faudrait pratiquement plus de 60 voire 80% d'immunité collective pour atteindre une immunité efficace. Et avoir 80% d'immunité collective, ça veut dire avoir entre 200 000 et 400 000 morts en France. Parce que immunité collective, ça veut dire qu'on laisse le virus circuler et donc faire cette mortalité chez les patients fragiles, mais aussi chez les jeunes.
Certains pays ont choisi de faire ça, des pays du Nord, et on voit que les résultats ne sont pas terribles, non ?
Il y a eu que la Suède qui a misé là-dessus, et ils sont revenus complètement en arrière quand ils ont constaté la mortalité chez les patients âgés. Mmh. Et maintenant, la Suède fait aussi les mesures barrières de manière peut-être un peu plus light que l'Europe du Sud. Mmh. Mais ils sont venus en arrière. Hein. Donc actuellement, il n'y a jamais eu aucune immunité collective induite, je veux dire, par des gouvernements ou des pays qui ont montré une efficacité, que ce soit pour le Covid-19 ou d'autres épidémies.
Hein. Et au-delà des morts.
Donc la seule immunité collective sur laquelle on compte, c'est l'immunité collective créée par un vaccin.
Et justement, cette immunité collective, vous disiez, donc c'est prendre le risque d'avoir beaucoup, beaucoup de morts. Mais est-ce que aussi le fait qu'on a de plus en plus l'impression que finalement, cette maladie, quand on l'a, elle immunise pas très longtemps, est-ce que ça aussi, du coup, ça veut dire qu'on n'atteindra jamais? Puisque si on peut l'avoir deux fois, trois fois, ce virus, finalement, ça sert à vraiment à rien de miser là-dessus.
C'est un grand débat. Un article dans Science, qui est la plus haute revue scientifique au monde, montre que cette immunité, on l'a au moins 5 mois, et encore les mesures ont été arrêtées parce qu'ils n'avaient pas assez de recul. Ils vont refaire des mesures un peu plus tard. D'autres ont montré que cette immunité baissait au bout de 3 mois. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on l'a. On l'a au moins 3 à 5 mois. Maintenant, il y a effectivement des cas de réinfection, sans qu'on sache réellement très bien si c'est un nouveau variant du virus qui vient réinfecter, ou si c'est à cause d'une baisse de l'immunité générée par la première infection. Donc ça, c'est encore un grand débat scientifique, on n'a pas la réponse.
Mais du coup, si on se dit une immunité de 3, 4, 5, même 10 mois, est-ce que ça ne va pas compliquer les choses pour un vaccin ? Est-ce qu'on est certain d'avoir un vaccin qui va protéger plus longtemps que la maladie ? Et est-ce qu'il ne faudra pas peut-être le refaire comme le vaccin de la grippe chaque année ?
Ben vous êtes au cœur du débat, c'est exactement ça le débat, c'est que on sait que sur des modèles animaux, le vaccin empêche la réinfection à court terme, on sait que le vaccin provoque une immunité humorale efficace, au moins in vitro. Maintenant, combien de temps elle dure et est-ce qu'elle sera réellement efficace ? Il n'y a que les essais cliniques en phase 3 actuellement en cours qui peuvent répondre à cette question.
Vous pensez qu'il faudra quand même être plus prudent cette fois sur le déconfinement ? On sait que peut-être on a lâché les rênes un peu vite la dernière fois, cet été, on avait oublié un peu le virus. Est-ce que cette fois, il faudra faire très attention ? Est-ce qu'on peut imaginer, encore espérer, passer un Noël en famille, entouré de nos proches ?
Bah, probablement qu'il faudra faire plus gaffe que la fin du confinement de la première vague, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas un relâchement généralisé, mais qu'il y ait peut-être une baisse de la garde progressive en gardant surtout les gestes barrières vis-à-vis des personnes fragiles, âgées, malades, avec des maladies chroniques. Parce que c'est cela qu'on retrouve vraiment en réanimation et à l'hôpital. Donc probablement qu'il va falloir trouver des protocoles de déconfinement plus progressif, mais si vous voulez, maintenant on a du recul, donc on sait ce qui marche et ce qui ne marche pas, donc j'ai aussi assez d'espoir qu'on puisse fêter Noël, mais encore une fois, hein, on est sur une cinétique lente de montée, donc on sera sur une cinétique lente de décroissance. Oui. Hein.
Merci beaucoup professeur Adnet d'avoir été en ligne avec nous cet après-midi, sachant que vous avez beaucoup à faire, on le sait, on vous laisse repartir à vos patients, merci encore professeur.
Merci bien.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de passer cet après-midi avec vous une fois encore. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les Bobos du quotidien. Aujourd'hui, on s'est intéressé à Moi sans tabac. Savez-vous de quoi il s'agit exactement et quel est vraiment l'intérêt d'arrêter la clope durant un mois ? Notre journaliste Benjamin Lévesque a été vous interroger sur le sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Eh bien, on ne fume pas, figurez-vous, pour le mois sans tabac.
C'est chaque année au mois d'octobre, novembre.
Des spots télévisés à la pharmacie, des prospectus, des kits.
Peut-être pas fumer pendant un mois, justement, pour pousser tout le monde à arrêter de fumer.
Des conseils, du soutien, avec une appli, avec tout ça.
Pour être fait un groupe, on se sent plus fort. Et dans ces cas-là, Bah, si on n'a pas fumé pendant un mois, on prouve qu'on peut arrêter.
Puis une fois qu'on a arrêté un mois, je pense que c'est plus facile ensuite de continuer.
Le fait d'arrêter de fumer un mois, je crois que c'est gagner une année, je crois, de vie.
Il paraît qu'on vit plus longtemps, donc on peut gagner 2 à 3 ans si on ne fume pas.
Alors Benjamin, dis-nous, c'est quoi l'opération du mois sans tabac? Même si moi, évidemment, je sais ce que c'est, mais je
Vous
crois qu'on en est voilà, à la 5e édition. Expliquez-nous.
Eh bien, c'est un défi, un mois sans fumer une seule cigarette, ni aucun cigare d'ailleurs. Alors, c'est chaque année au mois de novembre. Alors, estimez-vous chanceux, il n'y a que 30 jours et pas 31. Et oui, et puis pour vous aider, eh bien, il y a l'emblématique kit du mois sans tabac qui est disponible gratuitement en pharmacie. Vous pouvez aussi le recevoir à la maison en vous inscrivant sur le site de l'opération. Et vous avez dedans plein de conseils et d'encouragements. Et aussi des tabacologues sont disponibles par téléphone au 39 89 pour vous aider à stopper la cigarette.
Est-ce que Benjamin, on a une idée du nombre de participants à cette session?
Alors pour l'instant, 100 000 fumeurs se sont inscrits sur le site, comme Sarah qui a 29 ans et qui vit à Paris. Elle fume depuis son adolescence. Elle avait pourtant réussi à arrêter de fumer il y a 2 ans grâce au fameux mois sans tabac. Mais elle avait craqué lors du premier confinement en fumant 5 à 6 cigarettes par jour. Et cette fois-ci, elle compte bien arrêter pour de bon.
Justement, la dernière cigarette, c'était la semaine dernière. Je me suis dit qu'en fait, il fallait vraiment que j'essaye de trouver des choses positives à faire pendant ce reconfinement. Et qu'est-ce que j'ai fait pour mettre en place? Ben, tout simplement, en fait, j'ai terminé mon paquet. Quand je sais que j'ai des cigarettes sur moi, je sais que je vais les fumer. Donc c'est très compliqué. Je n'ai pas pris de briquet sur moi. Je sais que je suis avec des personnes qui ne fument pas, ce qui est super important. Et je vais essayer d'être beaucoup plus assidue et d'essayer de reprendre le sport comme des sports un peu plus doux, comme le yoga. Essayer de me remettre un peu à la méditation qui m'avait aussi beaucoup aidée il y a 2 ans.
Et sachez que vous pouvez aussi avoir recours à des substituts nicotiniques, hein, des patchs ou des gommes à mâcher.
Ou des cigarettes électroniques.
Ou des cigarettes électroniques. Et puis, il n'y a pas que les médecins généralistes, hein, qui peuvent vous les prescrire, ces substituts. Il y a également les kinés, les dentistes ou encore les infirmières. Et c'est totalement remboursé par la Sécu.
Benjamin, c'est quoi l'intérêt précisément d'arrêter juste un mois?
Eh bien, parce que si vous réussissez, Mélanie, à arrêter la cigarette pendant 30 jours, eh bien, vous avez 5 fois plus de chances d'arrêter de fumer définitivement. La preuve avec vous, Mélanie.
Oui.
Vous avez fait l'expérience l'an dernier et happy birthday, vous fêtez vos 1 an sans tabac.
Merci, je suis très fière de moi.
Et puis quand on arrête de fumer un mois, eh bien, il y a aussi plein de bénéfices pour notre santé, pour notre peau, comme nous le résume Justine Avenel-Roux, la chef du projet Moi sans tabac.
Dès les premiers jours de l'arrêt du tabac, il y a vraiment plein de bénéfices qui peuvent être visibles. Alors, vous parliez de la peau qui va être moins jaune, mais on va aussi retrouver le goût, on va retrouver l'odorat. On va également retrouver un meilleur souffle et peut-être pouvoir faire un peu plus d'activité physique. Il y a vraiment plein de bénéfices qui sont très rapides à observer quand on arrête de fumer.
Enfin, bien sûr, et c'est important, vous économisez de l'argent puisque, je le rappelle, le prix d'un paquet de cigarettes est désormais de 10 euros en moyenne.
Il y a plein d'autres avantages. Vous savez, Jimmy, que l'arrêt du tabac, c'est contagieux aussi. Moi, j'ai convaincu mon mari, finalement, d'arrêter de fumer. On est une maison sans tabac maintenant. Donc,
bravo.
C'est le seul truc contagieux dont on est content.
Exactement, pour une fois qu'un truc contagieux est sympa, vous avez raison, Mélanie.
Merci beaucoup, Benjamin. Merci, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed sur Europe 1.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Alors pour cette dernière séquence de l'émission, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Blanc dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Alors Catherine, aujourd'hui on a une question d'Alexandre qui a 43 ans. Je vous la lis tout de suite. Alors on entend souvent que l'amour dure 3 ans. Il y a même eu un livre sur ce thème, c'est vraiment prouvé. Enfin c'est vrai qu'il faut reconnaître que la fougue des premiers mois, premières années, passe assez vite quand même. Comment on l'explique, Catherine? Alors Catherine, c'est vrai qu'on entend souvent cette phrase parce qu'effectivement il y avait eu un livre qui portait ce titre-là, L'amour dure 3 ans. Ça se base sur quelque chose qui existe vraiment ou c'est juste le titre d'un livre?
Alors, c'est le titre d'un livre, mais c'est une réalité. Alors, pas nécessairement 3 ans, parce que certains n'arrivent même pas jusque-là.
Ça peut être trois mois,
ça peut être 3 jours. Le fait est que c'est vrai que se pose la question de comment fonctionne l'amour. L'amour, dans un premier temps, c'est une projection que l'on a, que l'on fait les uns sur les autres, de ce que tu es, tu peux être, tu seras, tu me permettras de, etc. Et puis, il y a petit à petit la rencontre avec la réalité de l'autre, c'est-à-dire tout ce que tu n'es pas exactement de ma projection, tout ce que tu n'es pas de ma rêverie. Pour autant, tu es force de proposition et de possible. Et souvent, on n'accepte pas de faire avec la réalité de l'autre.
Et puis c'est par peut-être on confond aussi un peu, on dit amour, passion, ce qu'il décrit au début, la fougue du début, effectivement. Ça, c'est pas la même chose. Enfin, l'amour et la fougue, c'est pas exactement pareil.
Voilà, on confond amour et être amoureux. Donc plutôt lié à la notion d'être excité par l'autre. Je parle pas que sexuellement, mais excité d'être avec l'autre, de partager des choses avec l'autre. L'autre nous manque.
Au début, on a ces papillons là. Je dis pas qu'ils disparaissent complètement. Je parle pas de moi personnellement, évidemment.
Mais bien sûr.
Mais on sait bien que bon, au bout de 10 ans de vie commune, de nombre de chaussettes ramassées dans la salle de bain à côté de la panière, on a moins de papillons dans le ventre quand même.
Absolument, mais ça veut pas dire que on n'a pas des tas de choses à faire. Le problème, c'est que nous voulons que la relation, nous confondons la relation amoureuse et le désir sexuel, déjà. Mmh. Et nous avons le sentiment que tout cela, cet élan de départ, sera l'élan de toujours. Et s'il n'est plus, c'est qu'il n'y a plus d'amour. Alors qu'en réalité, ce qui se passe au départ, c'est que nous avons peur de ne pas plaire à l'autre, nous avons peur de le perdre, nous avons peur d'être préféré par, que quelqu'un d'autre soit préféré à nous. Donc on met en œuvre énormément de choses. On est dans l'insécurité. Cette insécurité.
Et au bout de 3 ans, on se dit s'il est resté 3 ans, il restera bien un peu plus longtemps. Voilà. Ou elle d'ailleurs. Parce que c'est quelque chose qui est féminin ou masculin ou...
C'est vrai des deux côtés. Ouais. C'est-à-dire que, bien sûr, on a le plaisir du confort, on a le plaisir de la sécurité qu'on s'est offert l'un à l'autre. Et puis à la fois, il y a de la difficulté à être créatif dans la relation, à s'inventer, se réinventer soi-même et réinventer la relation. Et certains ont le sentiment que se réinventer, c'est automatiquement des positions différentes, aller dans un hôtel, passer un petit week-end, etc. Et que c'est cela qui donnera de la fougue, alors qu'en réalité, c'est créer une relation sous la base de ce que l'on peut faire et changer nos propres directions, nos propres normes, plutôt que de n'offrir que l'évidence de nous-mêmes. Mmh. Il va falloir creuser un petit peu. Et les gens préféraient ne pas avoir à creuser la relation.
Donc 3 ans, c'est 3 années, ça n'a aucune... Enfin, ça n'existe pas, en fait. C'est pas 3 ans, il n'y a rien de mathématique ou de biologique, ou c'est basé sur rien. Quoi.
Non, rien de tout ça. Il y a juste qu'on a fait un peu le tour de la question pour les plus inventifs.
Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre 3 ans, forcément, avant de s'installer avec quelqu'un. On se dit pas au bout de 3 ans, bon, l'amour, la fougue est certes partie, mais si j'ai tenu 3 ans, c'est que c'est le bon.
Non, ça sert à rien. On peut continuer. Après, on dira que ça sera à cause des enfants. Après, on dira que c'est parce qu'on a vieilli, qu'on a une ride sur de la patte d'oie ou je ne sais quoi. Non, en réalité, il faut pouvoir toujours réenvisager. Vous savez, par exemple, dans la sexualité, si on prend la sexualité, les gens vont faire l'amour d'une certaine manière. Et puis, ils vont se dire que si jamais ils bougent quelque chose, l'autre va être surpris, l'autre ne va pas le reconnaître, ça sera louche, etc. Donc, on s'applique à faire toujours la même chose, à réagir de la même manière. Et c'est comme ça que l'on s'enferme, qu'on enferme la relation. Il faut pouvoir la bouger sans craindre de se perdre, sans craindre d'étonner l'autre ou d'inquiéter l'autre.
Et donc au bout de 3 ans, même si je reviens sur mes 3 ans, même si j'ai bien compris qu'il n'y avait aucun fondement là-dessus, mais au bout de 3 ans, si on n'a plus les papillons dans le ventre, si on a moins de fougue, même sexuelle, mais qu'on se sent amoureux, ça peut durer l'amour comme ça, sans passion, en tout cas sans fougue éternellement. Enfin.
Oui, mais la passion n'est pas que confortable. La passion, c'est absolument formidable, mais c'est source d'anxiété évidente. Hein. C'est-à-dire que dans la mesure où je suis plein de fougue, j'ai peur que l'autre ne partage pas ma fougue. Donc, c'est pas très, très confortable. Nous cherchons tous à quelque chose d'assez calme, d'assez doux, d'assez sweet. On rêve même le livre que chacun lit de son côté ou le film que l'on regarde côte à côte, pense nécessairement en étant dirigé à chaque fois l'un sur l'autre. Donc non, ne nous inquiétons pas si les choses connaissent des hauts. Il y a des hauts, des hauts merveilleux, des moments d'excitation, des moments où on s'exclut du monde et on est tous les deux. Et puis il y a des moments où on rentre dans le monde, on va s'enrichir ailleurs. Et les autres sont intéressants et excitants parce qu'ils nourrissent notre personne et ça nourrit la relation de couple.
Donc il faut continuer à se séduire aussi, ça compte tout ça pour faire durer l'amour aussi, même sans papillon.
Exactement, mais se séduire, et c'est pas toujours en se mettant sur son 31, se séduire, c'est justement en étant riche de propositions encore et toujours.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils, on vous retrouve bien sûr demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout de suite, c'est Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont vous raconter l'histoire comme tous les jours sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie, vous restez avec nous dans Historiquement Vôtre aujourd'hui. Notre thème, ils ne sont pas restés longtemps aux affaires. C'est un peu court, jeune homme, n'est-ce pas Stéphane?
Oui, on va parler de Louis XIX. Vous savez, le fils de Charles X, qui est resté 20 minutes roi de France avant d'abdiquer. Napoléon II, le fils de Napoléon Ier, qu'on connaît sous le nom de l'Aiglon. Et puis, Mathieu nous parlera d'un autre bref de l'histoire, c'est Benjamin Griveaux.
Oui, même si l'expression « c'est un peu court, jeune homme » ne s'applique pas pour lui.
Merci beaucoup, messieurs. Je vous souhaite une excellente émission. Je suis sûre qu'elle le sera. On sera à l'écoute et vous aussi, je vous le conseille. Restez sur Europe 1.